17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Grand témoin, grande témoin, je ne sais pas s'il y a un féminin, un grand témoin, je ne sais pas. En tout cas, notre invitée exceptionnelle aujourd'hui, Sophia Hamad, bonjour.
Bonjour.
Écrivaine, chercheuse. Le monde aujourd'hui est un monde multipolaire, un monde qui vole en éclats depuis la Société des Nations et depuis l'ONU, avec des velléités hégémoniques par-ci, par-là. On le voit avec la Turquie, on le voit avec les États-Unis, on le voit avec la Chine, on le voit avec la Russie. Partout, partout, on le voit aussi en Afrique. Donc partout des velléités de remettre en cause les frontières issues de la colonisation. Et chacun voit midi à sa porte et chacun est entraîné dans un nationalisme exacerbé. On le voit aujourd'hui en Hongrie, on le voit en Italie avec l'apparition de l'extrême droite. Une extrême droite aussi en France qui fait près d'une centaine de députés. Donc tout ça est en train de bouger et au milieu de tout ça, l'Algérie. L'Algérie qui sort d'un hélarc, qui sort d'une révolution populaire, qui a donné ce conseil. On va en parler dans un instant. Et vous êtes une enfant... vous êtes algérienne, vous êtes une enfant de l'Algérie, une enfant de la guerre d'Algérie, et vous avez commis un ouvrage qui s'appelle « Algérie, ils ont honoré la patrie », des poètes et des guerrières. Et dans cet ouvrage, j'ai remarqué que vous aviez pris un malin plaisir à parler des anonymes, parce que vous pensez qu'on parle trop des gens trop connus, que les anonymes aussi ont droit à leur part de vérité, à leur part de publicité. C'est votre démarche pour faire émerger ces combattants ou ces artistes de l'ombre, c'est pas anodin, ça procède chez vous d'une volonté d'authenticité.
Tout à fait. C'est véritablement authenticité, puisque la révolution algérienne, en fait, c'est tous ces anonymes dont on n'entend plus parler. Malheureusement, les Algériens ne connaissent pas des personnes comme Djamila Saadan, comme Sheba Miki, comme Redaou, comme ces femmes qu'on connaissait aussi bien notre région, Djourad Adhand et d'autres, qui sont des personnages anonymes, mais qui en réalité, pendant la révolution, ont véritablement lutté contre le colonialisme et qui étaient pour, dans toutes ces régions et même dans toute l'Algérie, parce qu'en fait il y avait des réseaux et des communications entre tout le monde, c'était véritablement des héros de la révolution, véritablement des gens qui se sont battus pour la liberté de tous, sans chercher ni gloire, ni argent, ni même pouvoir. Certains d'entre eux auraient pu devenir ministres ou députés ou maires à l'indépendance en 1962. Ils n'ont pas cherché le moindre titre. Certains n'ont d'ailleurs même pas le titre de Moudjahid, alors que pourtant ils l'auraient amplement mérité, parce que eux l'ont véritablement fait pour l'intérêt de tous, l'intérêt général, l'intérêt collectif.
Alors on va en prendre deux au hasard. On va prendre une femme, un homme, Djamila Saadan et Sheba Miki. Alors, Djamila Saadan.
Alors, Djamila Saadan, c'est Constantine. C'est une anonyme sans être anonyme, puisque son oncle était le docteur Saadan, qui était quand même un petit peu connu, puisqu'il a siégé au niveau gouvernement général. Et donc, Djamila, c'est une jeune lycéenne, et elle va au lycée, elle va à l'école, et elle se rend très vite compte qu'entre elle et les autres élèves, qui sont donc européennes, il y a une véritable ségrégation, même discrimination. Et Djamila, c'est celle qui, dès le lycée, dans sa classe, va commencer à faire sa révolution en exigeant d'avoir les mêmes droits que les autres élèves.
Et là, on est dans les années combien, là?
On est dans les années 45-50. Et déjà avant même que
Cette avait déjà eu lieu.
Cette IF avait déjà eu lieu. Il y avait déjà les prémices, parce qu'en fait, on en a fait... il est dommage d'avoir fait de cette IF du 8 mai 45 une date parmi d'autres, alors que c'est une date importante en fait. Le 8 mai 45, ça a véritablement suscité dans toute l'Algérie une indignation. Et ça a aussi été création de maquis dès cette époque-là, puisque les premiers maquis en Kabylie et dans les Aurès datent de 1945. Après le 8 mai 45, beaucoup sont montés au maquis parce que beaucoup ont été recherchés. On a parlé des massacres de Sétif. Mais il n'y a pas eu que Sétif, en fait. Ça s'est, en fait, répercuté sur pratiquement toute l'Algérie, puisque 8 mai 45, ils célébraient la victoire, la libération, et ils pensaient véritablement que la libération, c'était pour tout le monde. Puisque c'était quand même des promesses faites par les militaires qui avaient dit, vous allez vous battre pour nous. Ils ont servi quand même de chair à canon, puisque c'est quand même eux qui libèrent la France, ces fameux tirailleurs algériens, ces fameux appelés parfois de force. C'est quand même eux qui ont libéré la France, donc ils espéraient que se battre, c'était aussi pour libérer l'Algérie.
Alors, Cheba Meki.
Alors, Cheba Meki, c'est un homme de théâtre. C'est un homme de théâtre qui utilisait justement le théâtre pour se moquer des caïds tout-puissants dans les villes algériennes dans les années 1920, 1930 et 1940. Et il se moquait particulièrement du caïd de Biskra, qu'il connaissait bien, puisqu'il était originaire de cette ville, et le caïd de Biskra, donc, qui était donc en fait un agent du colonialisme, puisqu'il prélevait les impôts pour eux, il rasiait pour eux, il arrêtait pour eux, il tuait surtout pour eux. Et donc, Cheba Meki, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une pièce de théâtre où il s'est moqué du caïd de Biskra, Ben Ghana. Il s'en est moqué en montrant ses travers, ce qu'il pouvait faire, parce qu'il y avait aussi tous les petits dessous des caïds qu'on ne montrait pas forcément. Lui, il les a montrés au théâtre. Il l'a ainsi ridiculisé, parce ils étaient plutôt ridicules. C'était des spots, c'était des tyrans. Et donc, ce qui s'est passé suite à cette pièce de théâtre, c'est que Caïd Ben Ghana l'a fait arrêter et il l'a traîné derrière un cheval dans toute la ville de Biskra pour montrer en exemple ce qu'il faisait aux gens qui se permettaient de se moquer de lui.
Alors, Sophie Hamad, vous êtes originaire d'une région, la Kabylie, qui a payé le prix lourd pour la révolution et pour l'indépendance de l'Algérie. Il suffit de se promener en Kabylie, on voit des cimetières à perte de vue. Avec les Aurès, peut-être l'endroit le plus décisif pour la guerre, et aussi d'un village qui s'appelle Ifira, autour de Azazga, qui est un village qui a beaucoup donné à l'immigration, où les gens ont immigré, et beaucoup donné à la guerre. Et d'où vous vient cette envie, ce besoin d'aller rechercher des héros, regarder, c'est de trouver... des choses inédites. Et puis, je sais que vous êtes attiré aussi par les archives. D'où vient cette volonté d'aller chercher, parce que vous êtes aussi chercheuse?
Ça m'est venu parce que depuis toute jeune, j'ai entendu mes parents chuchoter, mes tantes, mes grands-mères. Je les entendais chuchoter sur cette période de... sur la période coloniale, et je sentais qu'il y avait des choses, qu'il y avait des non-dits que j'avais besoin de comprendre, parce qu'il y avait des comportements qui m'intriguaient vraiment, surtout parmi les femmes. Elles avaient des comportements parfois assez étonnants, et j'entendais des bribes de choses, j'essayais de comprendre. Et puis ensuite, mon papa est tombé malade. Il a été sous médicaments, et donc ça l'a un petit peu détendu, et il s'est mis à me parler de sa guerre d'Algérie à lui, et de la guerre d'Algérie en général dans notre région, qui est la fameuse Wilaya 3, parce que Ifira c'est Azazga, mais c'est aussi la région d'Yerkouren, puisque c'est la fameuse tribu des Beni Gobri, et Beni Gobri c'est aussi le royaume de Koukou, puisque juste au-dessus c'est Aourir, où nous avons la tombe du dernier roi d'Alger, qui est Belkadi. Et donc, moi, en voyant tous ces vestiges et toutes ces histoires, j'ai eu besoin, et plus les récits de mon papa, j'ai eu besoin d'aller chercher, est-ce que c'était vrai ce qu'on me disait? Parce qu'après tout, parfois, les gens peuvent aussi un petit peu inventer ou un petit peu magnifier les choses. Donc, je me suis dit, seul moyen de savoir si c'est vrai ou pas vrai, c'est d'aller dans les archives, d'aller faire des recherches et de voir vrai, pas vrai, qu'est-ce qui est vrai dans tout ça. Et donc j'ai cherché, et à force de chercher, je suis tombée sur, j'ai été chercher dans les archives de l'armée française, à Aix-en-Provence, à Vincennes, à Pierrefitte, auprès Saint-Gervais. J'ai fouillé beaucoup pour essayer de trouver les points communs et la vérité. Et puis là, la plus grande surprise, ça a été quand j'ai retrouvé le texte de Georges Mattei, qu'il a publié dans Esprit en juillet 1957, sur la demande de Jean-Paul Sartre, et que je lis le texte et que je me rends compte que le village qu'il décrit, ben, en fait, c'est mon village, c'est Ifira.
Extraordinaire.
C'est là que je me suis dit, mais donc ça veut dire que tout ce que mon père et les autres racontaient, c'est vrai. Ces horreurs, ces tortures, parce que mon père a été torturé deux fois quand même.
Et cette curiosité est allée crescendo, et c'est devenu une soif qui ne s'arrêtait jamais. On y revient dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Et toujours avec Sophia Hamad, écrivaine, chercheuse, dont vous êtes plongée dans ce que Georges Mattei a révélé, ce que disait votre père était la vérité. Et cette vérité, comment vous l'abordez?
Cette vérité, d'abord, ce que j'ai fait, c'est rechercher voir si le texte original de Georges Mattei existait ou pas. En fait, il a été censuré à l'époque, donc les noms n'y figure pas. Par contre, moi, j'ai pu, grâce à des témoignages, remonter le fil et trouver tous les noms des intervenants, aussi bien militaires français que les personnes qui ont été torturées, arrêtées ou tuées, dans les récits de Georges Mattei. Et donc, de fil en aiguille, j'ai continué mes recherches donc dans les archives, et donc j'ai retrouvé des procès-verbaux. Il y a encore quelques archives dont nous refuse accès, ou même des archives où j'ai déjà eu accès, mais où je n'ai plus accès. C'est un peu bizarre.
C'est la grande question des archives. Là, sur les archives, on peut rappeler que n'importe quel citoyen peut avoir accès aux archives. Donc, on n'a pas besoin d'être professeur d'université, historien, militaire, chercheur. N'importe quel citoyen en fait la demande et a droit à avoir accès aux archives de la guerre d'Algérie, à Aix-en-Provence, à Vincennes, à Paris, enfin, voilà. Et donc, sur ces archives, vous vous apercevez quand même que il y en a qu'on ferme, il y en a qu'on ouvre et qu'on referme, c'est
voilà,
ça?
Voilà, c'est ça. Il y a certaines qui étaient ouvertes, puisque moi, j'ai commencé mes recherches dans les archives dans les années 2000. Il y a des archives auxquelles j'avais eu accès et auxquelles je n'ai plus accès. J'y suis encore retourné cet été, et des archives que j'avais pu consulter tranquillement, cette année, je ne pouvais plus. Donc je me suis dit, c'est quand même bizarre.
Par exemple, il y a des archives sur l'enfumade du combattant nationaliste. On connaît tous l'enfumade, les colonnes de la mort, mm-hmm, de Bugeaud, au moment dès la colonisation après 1830. Donc on enfumait, on mettait ce qu'ils appellent les indigènes dans les grottes, et on les enfumait, on les tuait. Il y a aussi, un peu moins connu, des enfumades des militants indépendantistes, des moudjahides, qu'on mettait dans des grottes et qu'on enfumait. Et là-dessus, sur ces archives-là, il y a encore le veto de l'armée. Ces archives-là ne sont pas encore ouvertes.
Tout à fait. On a des témoignages, par contre, de nombreux témoins de l'époque qui allaient ensuite, parce que ce qui se passait, c'est qu'ils enfumaient, et ensuite les villageois allaient chercher les corps dans les grottes pour les enterrer. Et ça, il faut savoir que même les personnes qui ensuite allaient chercher les corps pour enterrer ceux qui avaient été donc tués, enfumés, étaient ensuite arrêtés et questionnés, parce que forcément, s'ils avaient été chercher les corps et s'ils les avaient enterrés, c'est qu'ils étaient complices de ces ce qu'ils appelaient les faits de Laga.
Alors, le fait de vouloir aller chercher dans les archives, ça procède des nouvelles générations. Vous êtes ce qu'on appelle de la nouvelle génération, issue de la diaspora. Ça veut dire que les aînés ont un devoir de mémoire envers les jeunes. Les jeunes doivent savoir. Ils ne peuvent pas vivre en France, ils ne savent pas.
Tout à fait. Mais je pense que c'est pas seulement en France. Je pense que en France, comme en Algérie, c'est l'histoire de la colonisation doit être connue de tous. Déjà, et d'une, comme on disait sur d'autres histoires, pour que plus jamais cela ne recommence. C'est très important. Puis je pense que pour les uns comme pour les autres, que ce soit côté français ou côté algérien, il est important qu'ils connaissent leur histoire, qu'ils sachent que l'Algérie, c'est quand même un beau pays qui a une histoire propre et qui a une belle histoire. Parce que dans mon livre, je parle aussi, je remonte aussi à l'époque El Robrini, à l'époque de ce qu'on a appelé la civilisation des Lumières concernant l'islam. On s'imagine très souvent que civilisation des Lumières pour l'islam, ça se passe en Orient. Pas du tout. La civilisation des Lumières pour l'islam, c'était en Algérie, c'était à Béjaïa. C'est là qu'on trouvait Avicenne, Averroès, c'est là qu'il y avait Ibn Khaldoun, c'est là qu'on discutait de science, et c'est cette science-là de l'islam, ce sont ces personnages, c'était des savants, qui ont fait leur renommée, même en Europe, puisque même l'Europe les recherchait pour leurs renseignements, tout ce qui était philosophie, astronomie déjà, médecine. C'est bel et bien l'Algérie qui était berceau de cette civilisation des Lumières.
Et c'est elle aussi qui a donné toute l'école de Cordoue.
Tout à fait.
Et c'est vrai qu'il y avait un tandem et un aller-retour entre Cordoue et Béjaïa.
Tout à fait.
Que on ne souligne pas suffisamment.
Tout à fait. Je trouve que on dépeint encore aujourd'hui l'Algérie un petit peu comme du temps colonial. Comme s'il n'y avait que des voleurs, des délinquants, alors que pas du tout, même en remontant des centaines d'années en arrière, on voit bien que l'Algérie donne d'éminents spécialistes dans divers domaines, même encore aujourd'hui, vous allez dans un hôpital à Paris, les trois quarts du temps, vous allez avoir en face de vous un médecin algérien. Mais on ne le dit pas. C'est comme si, je pense que ils ont besoin, on a besoin, je pense que ça date justement de cette période coloniale, où il y a eu cette action un petit psychologique pour diminuer l'Algérien, l'indigène qui devait rester petit, qui était forcément bête, peu savant et qu'il fallait un petit peu diriger. Et je pense que en se réappropriant son histoire, en s'apercevant que même dans les ancêtres au 15e siècle ou au 12e siècle, ils existaient des savants en Algérie. Et qui sont les ancêtres de beaucoup d'Algériens. Donc, en se réappropriant leur histoire, je pense qu'ils vont davantage s'aimer et davantage aimer aussi.
Et même sur l'islam, on oublie très souvent que Abdelmoumen, qui était de Béjaïa, qui a rejoint Ibn Tumurt, qui a fait un travail considérable d'exégèse sur l'islam, qui a traduit le Coran en tamazight, et qui a complètement fait un travail révolutionnaire au niveau de, à la fois de la conception de l'islam et de sa pratique, et qui n'a pas beaucoup plu à l'islam qui venait d'Orient. Il y avait vraiment, avec Ibn Tashfin aussi de son côté, les Almoravides, il y a eu aussi ce travail sur l'islam éclairé, un islam authentique, qui aujourd'hui est passé sous le boisseau. Donc c'est vrai que l'Algérie a été le creuset d'une culture, d'une renaissance, d'une Nahda très importante. Et aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a entre la France et l'Algérie un mouvement. Récemment, une déclaration commune a été signée entre le président Macron et le président Tebboune, pour aller plus avant dans la mémoire et dans les archives, avec une commission qui va être nommée pour, enfin qui va être désignée, qui va être élue, je sais pas comment elle va se faire, pour essayer d'aller plus en avant dans, la mise à plat de ce qui s'est passé pendant la colonisation et non pas seulement pendant la guerre d'Algérie. Mmh. Ça veut dire qu'on va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens.
Moi, je pense que ça va dans le bon sens parce que en France, en particulier. De nombreux jeunes s'identifient à l'Algérie ou ils ont parfois du mal avec la France, et je pense à une communauté en particulier, c'est la communauté Harki, dont on parle peu souvent, et pourtant elle existe et elle est en grand nombre en France, et on l'oublie un peu trop souvent et de plus en plus, je trouve, aujourd'hui, où on catégorise en disant musulmans ou origine étrangère, alors que les Harkis sont quand même les enfants et petits-enfants de ceux qui, en 1962 et même avant, avaient décidé de choisir la France et d'être français. Et s'ils l'ont fait, c'est quand même, c'est en pensant à leurs enfants et petits-enfants. Parfois, ils l'ont pas fait forcément de plein gré, parce que c'était à force des choses, ils avaient besoin de manger. Toujours dit qu'aujourd'hui, en 2022, on entend parler à la télévision de Montfermeil, par exemple, ou de Lyon. Et on parle d'origine d'immigrés, d'origine. Alors que Montfermeil, par exemple, m'ont fait un mail et la ville est l'une des villes du 93 où les fameux HLM qui existent aujourd'hui ont été occupés par des familles harkis arrivées en 1962. Et aujourd'hui, en 2022, on les appelle origine algérienne ou origine immigrée. Non, ce sont des Français.
C'est temps de leur rendre leur histoire. Peut-être que l'ouverture des archives va permettre aussi de montrer combien les choses ne sont pas cloisonnées, mais qu'il y a un véritable système de vases communicants entre toutes ces entités qu'on a voulu, tous les stéréotypes qu'on a voulu construire, les harkis, les enfants d'immigrés, les rapatriés, que l'histoire elle est finalement horizontale et que tout ça, ça communique et ça circule et qu'on a voulu jeter peut-être, avec mépris, traiter un certain nombre de communautés, mais qui finalement, par le jeu de l'histoire, finalement se retrouvent de la même façon et qui sont respectables de la même façon et que peut-être aujourd'hui on pourrait regarder ça un regard complètement différent. On se retrouve dans un instant pour parler du 17 octobre.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Donc on arrive un petit peu dans la dernière partie de cette émission. Avec Sophia Hamad, qui est écrivaine chercheuse, aujourd'hui, l'assassinat de Maurice Audin est reconnu, Boumendjel, on a aussi eu différentes décisions prises par le président de la République. C'est important pour les jeunes générations, et comment il faudrait intégrer ça dans l'enseignement, dans l'éducation ?
Dans l'éducation, l'enseignement.
Comment intégrer cette volonté de refaire surgir, de démystifier un peu l'histoire et de l'enseigner en direction de l'éducation nationale, des livres d'école. Quel chemin ça pourrait prendre ?
Moi, je pense que ça devrait prendre le même chemin que ça a pris pour 1935 et 1945. Aujourd'hui, on a démystifié le Veldiv. La France a reconnu que c'était des soldats français qui avaient raflé les Juifs et qui les avaient envoyés dans les camps de concentration. Ils ont décrit la manière dont ça a été fait. Mais il faut faire exactement la même chose pour l'Algérie. Il n'y a pas de raison qu'un problème que 39 soit traité d'une manière, 54-62 d'une autre manière, alors qu'on sait qu'aux manettes, ce sont les mêmes personnages, puisque l'erreur, elle a quand même été faite en 1945, où les trois quarts des collaborateurs nazis n'ont pas été
mis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une reconnaissance institutionnelle au sommet de l'État, et ensuite une déclinaison au niveau de l'éducation nationale, au niveau des médias, au niveau du cinéma, donc produire des livres, produire des films, produire des pièces de théâtre, c'est-à-dire que enseigner cette guerre, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Enseigner, c'est peut-être pas le bon mot, enseigner, plutôt montrer cette guerre, pour montrer qu'après 39-45, où normalement c'est des crimes de guerre n'auraient jamais dû avoir lieu, ils ont malgré tout continué en 54-62 par erreur du gouvernement français qui a laissé d'anciens collaborateurs de la période 39-45 continuer leurs exactions en sachant parfaitement qu'ils existaient puisque beaucoup ont été envoyés en Algérie. C'est d'ailleurs incroyable quand on regarde les noms. Bon, la chose qui m'a vraiment... pas scandalisé, mais si, un petit peu scandalisé, c'est quand j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé des noms, et qu'en remontant, je me suis rendu compte que ces personnes-là, en fait, c'était d'anciens collaborateurs qui, pour se faire oublier en France, on les avait envoyés en Algérie, dans les colonies, au Maroc aussi, et qu'ils avaient continué à perpétrer les mêmes actes sans que ça scandalise les colons qui, en fin de compte, ils trouvaient un petit peu leurs intérêts. Puisque maintenir une population à leur merci, qui avait moins 50% au niveau des salaires, qui n'avait pas les mêmes droits au niveau tout ce qui était aide sociale, CAF et tout, ça les arrangeait et ils ont laissé faire.
Alors, on arrive vers la commémoration du 17 octobre. L'année dernière, Emmanuel Macron s'était recueilli au pont de Beson. Là, on avait jeté des Algériens à la Seine. Alors, beaucoup lui ont reproché de ne pas avoir dit, reconnu crime d'État. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, plusieurs célébrations. Dans toutes les villes de France, il y aura des rassemblements, il y aura des inaugurations de plaques, comme par exemple à Alfortville sur le bord de Seine. Il y aura des pièces de théâtre, comme celle de Mohamed Kaki, le 22 octobre, 17 octobre 61, je me souviens, et Hakima, 5 juillet 62, je me souviens. Donc, Mohamed Kaki, qu'on va recevoir, bien sûr, prochainement. Et vous, avec l'association Humaniv, en partenariat avec Beurre FM, vous organisez le 17 octobre prochain à l'Assemblée nationale un colloque sur le 17 octobre autour de mémoire algérienne. Parlez-nous un peu de ça.
Mémoire algérienne à l'Assemblée nationale le 17 octobre, c'est d'abord une date symbolique. Je pense que c'était important de faire rentrer le 17 octobre à l'Assemblée nationale, qui a quand même une petite part de responsabilité dans ce qui s'est passé dans le passé et qui a sa part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. Je crois que l'Assemblée nationale doit se saisir de ces questions parce que c'est de leur responsabilité de faire en sorte que tous les Français soient traités de la même manière, que l'on ne reproduise pas les erreurs du passé. 17 octobre 61, c'est quand même des policiers, un préfet de police qui a jeté des êtres humains dans la Seine, qui les a massacrés à coups de matraque, qui les a parqués dans des Veldives où qui avaient déjà vu les Juifs et après c'était les Algériens. Et ça s'est passé en plus, comme l'a très bien dit Kateb Yacine, sous les yeux du peuple français qui n'a rien fait et qui n'a rien dit. Et je pense qu'il serait temps que les Français disent ce qu'ils ont vu et fasse en sorte que plus jamais ça ne se reproduise, parce que la peur, surtout en ce moment, avec ce qui se passe avec l'extrême droite, les discours que l'on peut entendre sur certaines chaînes de télévision et même sur certaines radios aujourd'hui, ça fait quand même un peu peur. On se dit, ils n'ont pas compris les leçons de 39-45, pas davantage de 54-62. On va continuer à stigmatiser l'étranger parce que pendant qu'on parle des étrangers, on ne parle pas d'autres problèmes sociaux. Donc je pense que c'est important le 17 octobre pour que plus jamais ça ne recommence.
Alors, il y a une pétition qui circule en ce moment qui réclame et qui demande à Emmanuel Macron de reconnaître solennellement, d'inscrire le 17 octobre au calendrier officiel des journées nationales et des cérémonies officielles. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que c'est une très bonne idée parce que en l'inscrivant officiellement, c'est aussi une date symbolique qui pourrait servir de repoussoir à un futur préfet ou un futur policier qui décréterait qu'il va lancer dans la Seine un Algérien ou un Soudanais ou un Éthiopien, on ne sait pas. Parce qu'après tout, on ne sait pas ce qui se passe aujourd'hui. Mais on sait qu'il y a des choses qui se passent et qui ne sont pas jolies.
Alors, c'est vrai que le 17 octobre, c'est le point culminant. C'est la journée de la manifestation qui a été réprimée dans le sang et dans la violence avec plusieurs centaines de morts et de disparus. Mais c'est surtout autour de cette reconnaissance, c'est que ça durait tout le mois d'octobre, même le mois de septembre. Enfin, il y avait une espèce de discrimination et d'attentats, de ratonnade de l'époque. On tuait de l'Algérien comme on écrasait une fourmi, c'est-à-dire que on tuait. C'est fondamentalement autour du 17 octobre, c'est bien sûr la journée du 17 octobre, mais c'est tout ce racisme colonial, toute cette culture coloniale qu'il y avait et qui s'est exprimée vis-à-vis des Algériens à l'époque et qui durait depuis des semaines, des mois, et les Algériens ne pouvaient même pas sortir. Donc il y avait ce racisme, et bien sûr, c'est la célébration de cette manifestation réprimée, mais au-delà de ça, c'est de tout ce qui peut construire le racisme. C'est ça aussi le 17 octobre.
Tout à fait. Parce qu'on construit le racisme aussi grâce à des discours que l'on répand dans les médias, sur les réseaux sociaux, en laissant penser que tout ce qui est étranger est forcément méchant, violent, délinquant. Alors que bien souvent, ce n'est pas vrai, parce que quand on regarde les chiffres, j'ai été voir hier, en 1947, il y avait plus de 60 000 condamnés dans les prisons françaises. Il n'y avait pas assez de prisons, ils demandaient plus de prisons. Aujourd'hui, on a 71 000 détenus. Donc si on compare en 1947, où il n'y avait pas de... On ne pouvait pas dire que c'était les étrangers en 1947, hein. À aujourd'hui où on en a 71 000, bon, ça va, par rapport à la population, au nombre que nous sommes en France, c'est pas énorme. On ne peut pas dire que la délinquance a augmenté, on ne peut pas dire non plus que la délinquance est due aux étrangers, on ne peut pas dire que le chômage c'est à cause des étrangers, puisque bon, on voit bien que les places de conducteurs de bus, elles ne sont pas très recherchées par les Français en général, pas plus que les places des boueurs. Donc c'est quand même bien, il y a quand même bien des gens qui prennent ces places-là. Et heureusement, parce que je pense que si un jour tous les étrangers ou toutes les personnes d'origine étrangère arrêtaient de travailler, ne serait-ce qu'une journée, je pense que la France serait paralysée. Donc ce serait peut-être, il serait temps, je pense, d'avoir non pas une, oui, un minimum de reconnaissance et enfin dire, ben en fait, ben oui, ils sont français.
Sophia Hamad, merci d'être passée nous voir. Je rappelle que vous êtes écrivaine chercheuse, que vous avez publié Algérie, ils ont honoré la patrie des poètes et des guerrières, et que vous préparez le colloque le 17 octobre à l'Assemblée nationale, sur le 17 octobre avec beaucoup d'invités prestigieux, entre autres, et que sur le site de Beurre FM, puisque c'est en partenariat avec Beurre FM, un certain nombre d'auditrices et d'auditeurs pourront s'inscrire et venir assister à ce colloque. Merci mille fois d'être venu nous voir et à très bientôt.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.